Tac, tic, tac. L'heure tourne et les secondes s'égrènent. Les minutes passent, il en faudra 7 à peine pour qu'on en compte une de plus. Ça sonne moins fort que l'Angélus en sourdine 7, une rengaine, 14 minutes et une deuxième. La troisième, puis la quatrième. D'ici la prochaine demi-heure, en randonnion, vont s'ajouter au guichet des femmes violées. Une file d'attente de la douleur passe à la caisse. C'est obligé, 90 000 chaque année. Tic, tac, tic. Tac, comptez les jours et les semaines, la cadence sera toujours la même. Et d'ici la fin du week-end, une femme sera morte, assassinée par un ex ou par un conjoint. Peu importe, il avait la main, elle était sa propriété, elle a voulu lui échapper. Elles sont 136 cette année, la liste continue de s'allonger. Tic, tac, tic, tac. Le rythme en est si régulier qu'on a fini par s'habituer. Et on pourrait presque glisser dans un sommeil tout doux, ouaté. Faut dire que c'est tellement pratique, faut dire que tout nous y invite. Fermez les yeux, tournez la tête, pensez à autre chose, c'est mieux. Se dire que c'est une fatalité, qu'on n'y peut rien, qu'est-ce que vous voulez. Et puis ça ne nous regarde pas, et puis les hommes violent, c'est comme ça. Tic, tac, tic. Et pour autant, il y a urgence à combattre notre impuissance. Et pourtant, on peut y arriver. Et cette violence, la mater, tous ensemble, on sera plus fort. Tous ensemble, oui, on peut gagner. Suffirait déjà d'essayer.
France Inter. Julia Foïs. Pas son genre.
Bonsoir, bienvenue. Face aux violences faites aux femmes, nous pouvons faire quelque chose. Voilà la conviction qui nous réunit tous ici ce soir. Avec nous en studio, Caroline Dehas, militante de Nous Toutes, collectif à l'origine de la grande marche prévue demain à Paris et dans toute la France contre les violences faites aux femmes. Bonsoir Caroline Dehas.
Bonsoir.
Ravie de vous recevoir depuis le début de Passons Genre, on veut le faire. Donc cette fois, on vous a, vous restez là avec nous jusqu'à 21h et avec le docteur Gilles Lazimi. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Ravie également, votre présence ici pour nous est importante. Ce soir, on se sent trop souvent démuni face à une victime de viol, de violence conjugale, de violence sexuelle. Il y a pourtant des mots et des gestes qui sauvent. Vous nous direz tous les deux lesquels. Mais d'abord, c'est une question rituelle ici, en début d'émission. Si je vous dis mauvais genre, qu'est-ce que ça vous évoque? En quoi est-ce que ça vous parle? Votre petite transgression, votre petite provocation du quotidien, ce serait quoi pour vous, Caroline Dehas?
Alors le problème, c'est que ma transgression, je ne l'assume pas du tout. Ah. C'est-à-dire que j'ai arrêté de m'épiler, mais par contre, je ne sors jamais. Sans que ça se voit.
Mais vous en parlez.
Ouais, alors mes copines m'ont dit, ne dis surtout pas ça ce soir à France Inter, tu vas déclencher une folle haine sur les réseaux sociaux et ça va te poser plein de problèmes avant la marche de demain.
Eh ben voilà, c'est
voilà,
fait.
C'est dit.
Comme quoi le regard des autres, au fond, vous vous en moquez royalement, ce qui nous va très bien. Gilles Lazimi, votre petite transgression.
Alors ma transgression, moi,
c'est que
je l'assume pleinement. Je peux pas aller voir un film, un dessin animé, sans pleurer.
C'est vrai.
Et je pleure du début à la fin.
Mais...
Et le pire, c'est quand j'ai pas de mouchoir. Là, je suis obligé d'attendre la fin du film.
Quel que soit le film ou le dessin animé.
J'ai toujours une émotion, j'ai toujours quelque chose. Et alors, si c'est beau, si c'est à l'eau de rose, je pleure encore plus. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi. Je suis vraiment la Madeleine.
Eh ben, on la prend, votre petite Madeleine. Et ça y est, on l'a entamé, notre balade au pays du genre et des sexualités. Comme chaque semaine, on fait ça en très bonne compagnie. Marie-Annick Rimbaud réalise cette émission. Romy Engels en assure la préparation et la programmation. Nicolas Ducazo est à la technique. Thierry Lupin aux platines. Rassurez-vous, ils sont tous très, très mauvais genre.
Back to wherever it is.
Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une meuf qui envoie du bois, et non pas une meuf qui en a, mais ça fera certainement le sujet d'une prochaine émission, promis. C'était l'autrice, compositrice, multi-instrumentiste Brittany Howard. Ce morceau, c'était Stay High, à retrouver évidemment comme toutes les références de Pas son genre sur franceinter.fr, exactement à l'endroit où vous pouvez nous podcaster. Si, si.
Pas son genre.
Gilles Lazimi, médecin généraliste, militant au collectif féministe contre le viol, et Caroline Dehaze, cofondatrice du mouvement Nous Toutes, sont nos invités ce soir. Avec eux, on va tenter de comprendre ce qu'on peut faire, nous, pas les institutions, pas le gouvernement, pas les politiques. Dans ça, évidemment, on en reparlera, mais là, on parle de nous ce soir, face aux violences faites aux femmes. Et bien, on peut déjà commencer par les entendre, hein, ces violences, ne pas détourner le regard, ne pas se boucher les oreilles. Écoutez le témoignage de Clémence, c'était en novembre 2017 sur le plateau de France 2 dans l'émission « Ça commence aujourd'hui ».
Tout le monde a une part de responsabilité face à la violence faite aux femmes. C'est-à-dire que moi, pendant un moment, j'en ai voulu à plein de gens de n'avoir rien fait, de n'avoir rien dit. Parce que quand on change complètement de personnalité, parce qu'ils nous font changer de personnalité, il y a des signes qui ne trompent pas. Je suis devenue agressive, je suis devenue triste, je suis devenue isolée, je suis devenue sauvage. C'est juste pas la Clémence que j'ai pu être. Et il y a des gens qui auraient pu s'en apercevoir et qui auraient dû faire des choses et qui ne l'ont pas fait.
Tes proches?
Ouais. Et quand on a crié ces derniers jours de violence chez nous, on avait des voisins, on avait des fenêtres ouvertes, personne n'a appelé les gendarmes.
Il dit beaucoup, beaucoup de choses, hein, ce témoignage, on va essayer de les reprendre dans l'ordre. À commencer par, tout le monde a une part de responsabilité dans les violences faites aux femmes. Vous êtes d'accord, Caroline Dehaze?
Je trouve ça difficile parce qu'on dit en même temps que la seule personne qui est responsable des violences, c'est la personne qui les commet. Et donc, je trouve que diluer la responsabilité auprès de tout le monde, c'est au final peut-être un peu effacer la responsabilité de la principale personne qui est responsable, à savoir celle qui commet les violences.
Après, il y a un système qui entoure cette personne qui commet les violences et qui l'encourage ou qui lui autorise ou qui lui permet.
Oui, mais ça n'empêche pas que la personne qui commet la violence est responsable de ces violences. Il peut y avoir des explications à cette violence. Quand vous-même, vous avez été victime de violence, vous pouvez avoir tendance, ça arrive, à les reproduire. Si vous avez été élevé dans un climat de violence permanent et qu'on vous a appris la violence depuis le plus jeune âge, évidemment qu'il y a un risque que vous la reproduisiez. Mais à un moment, quand vous êtes adulte, vous êtes responsable de vos actes. Après, il y a évidemment la possibilité pour l'entourage d'agir. Mais le mot responsabilité, moi, j'ai tendance à le conserver vraiment pour les personnes qui commettent les actes violents. Les autres, ils ont un pouvoir d'agir que souvent ils minimisent, souvent ils mobilisent pas, qu'ils utilisent pas pour plein de raisons, hein. Soit parce que eux-mêmes sont victimes de violences, donc ils sont déjà dans des trucs douloureux à gérer, soit parce qu'ils ne veulent pas voir, soit parce qu'ils n'ont pas les outils pour voir.
Alors justement, je vous ai vu Gilles Lazimi hocher la tête pendant l'extrait du témoignage de Clémence, et notamment au moment où elle dit il y a des signes qui ne trompent pas. Vous êtes médecin, vous êtes aux premières loges. Quels sont ces signes-là? Auquel il faut que nous tous, on fasse attention.
Quand j'ai commencé à m'intéresser aux femmes victimes de violence, je ne savais pas que c'était des femmes victimes de violence. C'était des patientes avec lesquelles ça se passait pas bien, qui étaient un peu agressives, qui étaient un peu mutiques, qui arrêtaient pas de se plaindre de douleurs dans le ventre, auxquelles on n'arrivait pas à trouver, qui avaient des problèmes de dépression, des tentatives de suicide. Je comprenais pas ce qui se passait. Et après, dès l'instant où j'ai commencé à poser la question, j'ai dit, voilà, il y a un problème là. La véritable problématique, c'est quoi? C'est qu'elles ne peuvent pas parler. C'est qu'elles sont seules, c'est qu'elles ont honte, c'est qu'elles se sentent coupables et qu'elles ne peuvent pas dire ce qu'elles vivent. Et le simple fait de poser la question, ça a changé ma relation thérapeutique avec ces femmes, ça a changé ma relation, et là j'ai pu enfin les aider. C'est terrible pour une femme victime de violence d'être seule, d'être isolée, d'avoir la tête prise par la peur, par l'angoisse, par tout ce qui fait qu'autour de ces femmes, eh ben, on ne joue pas notre rôle, hein, ou on ne jouait pas notre rôle.
Vous avez signé une tribune dans ce sens, hein, il y a très peu de temps avec 65 de vos confrères. Vous dites, les médecins, on est la première ressource pour ces femmes-là. Qu'est-ce que, du coup, vous demandez? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Pour les médecins, je parle.
Bon, il faudrait mettre en place des véritables formations et des sensibilisations pour leur expliquer à quel point c'est utile, c'est pertinent de poser la question des violences à toutes leurs patientes de façon systématique.
Simplement demander, quoi.
Oui.
Comment ça se passe à la maison, en fait?
On a de réponses qu'aux questions qu'on pose. Ouais. Et si on apprend aux médecins à poser la question, avez-vous été victime de violences verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles, la patiente qui est en face sait qu'ici, on va pouvoir l'écouter en confiance et on va pouvoir parler de ça. Elle ne se sentira plus seule et là, on va l'aider, on ouvre une porte. Enfin, cette porte, elle essaye par tous les moyens de l'ouvrir. Ouais. Et ces témoignages de tout à l'heure, elle dit « j'étais agressive ». J'étais désagréable.
J'étais pas la même. Changé. J'étais plus la même,
voilà.
Clémence.
Quand on peut pas parler de violence, c'est le corps qui parle.
Ouais.
Et on fait tout pour donner à voir. Ouais. Malheureusement, un grand nombre de personnes ne sont pas formées, ou ne peuvent pas voir, ou ne
Donc
veulent pas
voir.
Donc on
va poser la question.
Voilà.
Quoi.
Et puis on a la chape sociétale, hein, de la désignation de la victime comme co-responsable, des femmes qui sont. Je vais raconter une anecdote.
Allez-y.
Quand je me suis installé en Seine-Saint-Denis, j'ai été à l'ordre des médecins. Et j'ai vu un médecin, c'était la première fois quand on arrive, on voit un médecin de l'ordre, et ce médecin m'a dit « attention, je voulais me prévenir hein, du risque grave, attention à toutes ces femmes qui viendront vous voir pour des certificats et faire plonger leur conjoint ». La deuxième chose, il m'a dit, attention aussi à ces patients toxicomanes qui viendront extorquer des produits.
C'est
incroyable. C'était il y a 35 ans. C'est pour vous dire que les médecins et la société dans son ensemble, on a baigné dans une culture qui nous faisait croire que les victimes étaient responsables des violences. Rien ne justifie les violences. Et quand on aide les femmes à parler, eh ben, on va vraiment les aider.
Alors,
on peut tout jouer un rôle. Mais je suis d'accord
ouais.
Je suis vraiment d'accord. Le seul coupable, c'est quand même l'agresseur.
Juste toute petite chose, petite info hein, qui date du mois dernier. La Haute Autorité de Santé est enfin allée dans votre sens le mois dernier en publiant une série de recommandations pour les confrères, pour les médecins, justement pour les inciter à poser des questions. Ça fait partie des choses qu'on peut faire effectivement quand on est médecin, mais aussi quand on est l'entourage. C'est ce que dit Clémence. Elle dit il y a des gens qui auraient pu faire quelque chose, mais la question c'est quoi ? Caroline Dehas, est-ce qu'il faut ? C'est une question qu'on se pose tous, ça. Est-ce qu'il faut et à quelles conditions le faut-il intervenir quand on est témoin de violence, que ce soit au domicile conjugal ou dans l'espace public? On fait quoi? On s'interpose? On intervient? On a peur et on peut le comprendre, ça.
Oui, tout à fait. La première chose, c'est évidemment de ne pas se mettre en danger soi-même, de se protéger aussi des violences qu'on pourrait subir. La deuxième chose, en fait, pour moi, la chose la plus importante, c'est de systématiquement respecter le souhait de la victime. Il y a deux conditions, il y a deux moments dans lesquels on peut outrepasser le souhait de la victime. Il y en a deux seuls. C'est s'il y a des enfants en danger et si la victime est en danger de mort. C'est les deux seules conditions dans lesquelles on peut prendre une décision à la place de la personne.
Qui serait d'appeler la police, par exemple.
Qui serait, par exemple, d'appeler la police ou d'aller saisir le procureur à sa place pour porter plainte.
On peut faire ça ?
On peut tout à fait appeler le procureur en disant « Moi, je suis face à une femme qui est en danger de mort. Je pense qu'elle n'est plus capable, en l'état, tellement elle est sous emprise, tellement elle a été abîmée par les violences, de prendre des décisions pour préserver sa vie. » Et ça, c'est prévu dans le code pénal. On peut déjà, les médecins peuvent déjà le faire. Pour les enfants victimes de violences, et notamment de violences sexuelles, et pour les adultes qui sont en danger de mort. Dans tous les autres cas, la priorité, c'est de respecter le calendrier, le timing, le souhait de la victime. Parce que si vous prenez une décision à sa place, par exemple, vous appelez la police à sa place, en fait, qu'est-ce que vous faites ? Vous grappillez petit à petit son autonomie, sa capacité de prendre des décisions. Et donc, de fait, vous la dévalorisez, vous la faites passer pour un enfant, et vous participez de fait à continuer le mécanisme des violences.
Et donc, exemple très concret, si on entend des cris au-dessus de chez soi, un soir, des coups, qu'on les identifie comme une séquence de violence conjugale, on n'appelle pas la police ?
Les cris, moi je considère que à partir du moment où il y a des cris et des coups, il y a un danger grave. Donc on peut évidemment appeler le 17, appeler la police pour qu'ils viennent. Et puis ce qu'on peut faire également,
encore faut-il qu'ils viennent,
c'est essayer, encore faut-il qu'ils viennent dans des délais raisonnables et qu'ils acceptent de se déplacer. Mais quand ce qu'on peut faire aussi, c'est essayer, après avoir appelé la police, hein, quand il y a des personnes en danger, de toute façon, quelles que soient les personnes en danger, on peut appeler évidemment la police. Mais on peut tout à fait, le lendemain par exemple, aller frapper à la porte. Essayer d'attendre devant la porte que madame sorte. Essayer de la croiser dans le couloir. Et puis lui poser la question.
On y revient.
Lui poser
toujours. La question. Ouais.
On a parlé de la détection systématique pour les médecins. Moi, je pense qu'il faudrait, comme Gilles d'ailleurs le dit, l'appliquer à tout le monde. En ce moment, je travaille beaucoup avec des personnels RH. Et je dis au personnel RH, dans vos entretiens annuels d'évaluation, posez systématiquement la question, est-ce que quelqu'un cette année vous a fait du mal au travail ? Détecter de manière systématique les violences. Je pense que si demain, tous les personnels RH, tous les encadrants, tous les managers de France faisaient ça, je pense qu'en 4-5 ans, on peut en finir avec le harcèlement sexuel au travail, par exemple. On peut en finir, rien qu'en posant cette question.
Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en juin dernier, Arte diffusait le très beau documentaire de Laetitia Onona. Elle l'a bien cherché. La réalisatrice suivait des victimes de viol du commissariat jusqu'à la cour d'assises. Ici, on est avec Manon en unité médico-judiciaire.
Ce qui m'a joué un tour, bah, c'est pas d'être sortie la nuit, c'est que...
C'est d'être tombée sur la mauvaise personne.
Et d'avoir trop bu, enfin...
D'être tombée sur la mauvaise personne. Ah mais heureusement qu'on a le droit de boire quand on va dans des bars ou en soirée.
Oui, mais...
Heureusement.
Ça ne serait pas arrivé si j'avais eu toute ma tête.
Vous ne serait pas arrivé si vous n'étiez pas tombée sur la mauvaise personne. Non, mais c'est hyper important parce qu'il ne faut pas croire que le problème vienne de vous. Une personne, c'est ce qu'on dit toujours avec Michel, c'est qu'une personne bienveillante, quand elle voit quelqu'un qui est mal, elle ne va pas l'agresser. Elle va la mettre dans un taxi direction la maison. Elle va la faire sortir de la boîte pour prendre l'air.
Elle va être bienveillante.
Ça veut dire que la personne qui a commis, entre guillemets, l'erreur, c'est pas vous. C'est pas vous en buvant trop. Faut pas inverser les rôles.
Ouais.
C'est lui en n'étant pas bienveillant avec vous.
Dire à une victime, tu n'es pas responsable. Le responsable, c'est lui, comme vous l'avez tous les deux fait d'ailleurs en tout début d'émission. C'est la première des choses à faire, Caroline De Haas.
La première chose qu'on peut dire, c'est je te crois.
Ouais.
Je te crois. Souvent, les personnes victimes, les femmes victimes de violences qui parlent des violences, la première chose qu'on leur renvoie, c'est un regard, c'est les sourcils qui se froncent un peu, un doute. Voilà. Comment ça, victime de violences? Mais comment ça? Mais voilà. Donc, on va d'abord mettre en doute sa parole. Donc, la première chose, c'est je te crois.
C'est compliqué d'entendre une femme qui dit j'ai été victime de violences sexuelles ou conjugales. Pourquoi? Je veux dire, on sait aujourd'hui que ça arrive, et même une fois toutes les 7 minutes dans ce qui concerne les viols. Pourquoi, Gilles Lazimi, on a ce réflexe-là de mettre
parce que les violences, c'est quand même difficile à penser et à imaginer. Donc voilà.
Aujourd'hui, encore maintenant
non, moins, de moins en moins. Mais ouais. C'est quand même difficile à imaginer. Donc quand on a des étudiants et qu'on leur apprend à poser les questions, quand on leur parle des violences, quand on leur parle de ce que peuvent subir des femmes et des enfants, bon, il faut un petit peu le digérer.
Ouais.
Hein, et puis petit à petit, ils commencent à l'admettre. Et quand ils voient qu'ils peuvent avoir un rôle bénéfique, eh ben là, ils comprennent
d'accord.
À quel point c'est. C'est ça, pour c'est, ça, c'est difficile
c'est
de penser.
C'est un admettre que ça existe voilà. Et deux admettre qu'on peut faire quelque chose.
Il y a quand même, enfin pour moi, en tout cas ce que j'observe par exemple dans le monde du travail ou dans la vie familiale, c'est que quand vous commencez à accepter le niveau de violence dans la société, c'est-à-dire pas accepter les violences, mais accepter que les violences sont très importantes. En fait, vous vous rendez assez rapidement compte que ça va être vos collègues, ça va être vos frères, ça va être vos pères, ça va être les gens de votre entourage qui commettent ces violences. Et accepter ça, c'est très douloureux. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné avec MeToo. C'est-à-dire qu'au moment de MeToo, on a percuté, mais genre de manière massive et mondiale, que c'était nos mères, nos sœurs, nos grands-mères et nos tantes qui étaient concernées par les violences. Et puis, il y a un pas qu'on n'a pas encore fait. C'est si ce sont nos mères, nos sœurs, nos grands-mères et nos tantes. C'est bien qu'à un moment... C'est nos pères, nos frères, nos cousins, nos oncles, nos collègues. Et accepter ça, mais c'est très douloureux. Se dire que des gens de notre entourage qu'on aime, avec qui on a fait un bout de vie, sont en fait des personnes violentes. Mais c'est tellement difficile à accepter que c'est plus simple. C'est normal de se réfugier dans le déni, quoi.
Alors, un, les croire, et deux, leur dire...
Merci de votre confiance, c'est très important. Merci de votre confiance, parce qu'elles n'ont plus confiance en personne. Parce que personne ne les a aidés, parce que personne ne les a permis de parler. Donc, merci de votre confiance. Je vous crois.
Ouais.
Il n'a pas le droit. C'est la loi. Je peux vous aider. Vous n'êtes plus seul. Ça, c'est important.
Et vous avez bien fait de m'en parler. Voilà, c'est très courageux. C'est-à-dire, en fait, on va
de les revaloriser parce qu'elles ont une estime d'elles-mêmes qui est en miettes.
En miettes.
On va inverser en disant ces petites phrases. Moi, dans les formations que je fais ou quand on fait des formations à nous toutes, par exemple, on les apprend par cœur, ces phrases. Par cœur. Je te crois, tu as bien fait de venir me voir, tu n'y es pour rien, c'est lui le coupable, la loi l'interdit, c'est grave et je vais t'aider. Tu peux appeler le 3919 par exemple.
Tu peux porter plainte, mais c'est toi qui décideras quand.
Justement, juste un tout petit point sur ce qui vient de se passer, sur l'extrait qu'on vient d'entendre. On est dans une unité médico-judiciaire. Est-ce qu'on peut rappeler très rapidement ce que c'est?
Les unités médico-judiciaires sont des unités médicales en lien avec la justice, vers lesquelles on adresse les victimes quand elles portent plainte pour faire un constat avec le recueil des preuves.
Et c'est fondamental, du coup.
C'est fondamental. Le problème, c'est qu'il n'y a pas des UMJ partout. Et c'est fondamental aussi de savoir que beaucoup de femmes, et on va le dire, ne portent pas plainte et donc ne peuvent pas aller aux unités médico-judiciaires. Et malheureusement, ça fait partie d'une revendication qu'on a depuis longtemps, on aimerait que ces unités médico-judiciaires soient ouvertes même aux femmes qui ne veulent pas porter plainte. Il n'y a que 3 expérimentations en France aujourd'hui.
Parce qu'au cas où, c'est-à-dire si plus tard, elles se décident à porter plainte, qu'il y ait eu quand même un recueil de preuves.
Certificat. Mais les autres médecins peuvent faire des certificats aussi. N'importe quel médecin peut le faire.
D'accord. Donc ça veut dire que le premier endroit, une fois qu'on a dit à la victime qu'on la croit, qu'elle n'est responsable de rien, une fois qu'on l'a remercié, je le répète, hein, pour que les auditrices et que les auditeurs qui nous écoutent là actuellement l'entendent, une fois qu'on l'a remercié de cette confiance qu'elle nous fait, on l'oriente en priorité, pas au pas dans une UMJ parce qu'il faut passer par le commissariat avant. Vous le disiez tout à l'heure, Caroline Delasse, on ne peut pas forcer quelqu'un à porter plainte. En même temps, et puis Adèle Haenel l'a dit il y a 15 jours, elle dit « moi, j'ai pas envie d'aller me faire broyer par la justice ». Et en tout état de cause, aujourd'hui, avec 1% de viols qui débouchent sur une condamnation, on sait que ces démarches-là n'aboutissent pas forcément. Pour autant, est-ce que c'est une étape qui reste nécessaire ?
C'est fondamental, c'est la première étape, c'est le premier temps. Parler, partager en confiance avec quelqu'un qui va vous écouter et qui va vous accompagner et qui va vous laisser redevenir auteur de votre vie. Expliquer la stratégie de l'agresseur comme ça a été fait dans ce témoignage. Aider la femme à comprendre, la déculpabiliser, lui expliquer que rien ne justifie, qu'elle a le droit de boire, qu'elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Ça c'est essentiel. Et ensuite lui dire, si vous voulez on en reparle, je suis à votre disposition. Et si vous voulez porter plainte, on vous aidera.
Donc ça veut dire que
Caroline Delasse. Trop en colère en fait sur la façon dont les plaintes sont prises et la façon dont la justice les traite. Je suis par ailleurs en colère aussi à cause de mon cas, c'est-à-dire que moi j'ai porté plainte pour des violences, on a menacé mes enfants, j'ai été menacée de viol collectif, menacée de mort sur les réseaux sociaux.
Pour votre activité de militante.
Ouais, en tant que militante féministe, on a appelé à me gifler sur un plateau télé, j'ai porté plainte pour ça. La première plainte, elle a été classée, parce que soi-disant ils n'ont jamais retrouvé parmi les dizaines de personnes qui m'avaient harcelée sur les réseaux sociaux alors que nous avions les adresses IP, etc. Ils n'ont jamais retrouvé soi-disant les gens. Et puis la deuxième, c'était il y a plus d'un an, je crois. En fait, j'ai jamais eu de nouvelles. Donc, en fait, ça n'aboutira jamais. Donc, et en fait, c'est on est des milliers comme ça. On est des dizaines de milliers. Il y a des femmes qui avaient porté plainte. La plainte s'est restée dans les placards. Elle n'a même pas été transmise au parquet. Et quelques semaines après, elles ont été assassinées. Enfin, il y a un moment, mon cerveau, je n'arrive plus à accepter cette situation.
65% des femmes qui sont...
65% des femmes qui ont été tuées par leur conjoint et leur ex-conjoint en 2018, mais ça fait 15 ans qu'on le sait, étaient connues, des services de police avaient porté plainte. Donc manifestement, la police ne fait pas son travail et les juges non plus. Une seule ordonnance de protection avait été délivrée, une seule. Donc là, quand on déplace le sujet, qu'on nous demande de lever le secret médical, on se moque du monde. Dans un pays
idéal... Mais c'est ce que Nicole Belloubet disait la semaine dernière, c'est qu'il faudrait lever le secret médical pour que les choses avancent.
Donc ça, c'est déplacer le sujet. Ouais. La vraie question, c'est l'inefficacité et l'absence de prise en charge des victimes dans les commissariats et l'absence de protection des victimes.
Et là, qu'on a un outil. L'ordonnance de protection, elle a été créée en 2010. Ça fait bientôt 10 ans que cet outil a été créé. On l'a copié-collé de l'Espagne. Donc c'est intéressant parce qu'on peut faire des comparaisons internationales. Cette ordonnance de protection, ils en délivrent 23 000 chaque année en Espagne. En France, on en délivre 1 300. Franchement, c'est la honte. C'est la honte. On a un outil excellent qui a été créé par Daniel Bousquet en 2010. Ouais. On n'est pas foutu de l'utiliser.
Je donne rendez-vous aux auditeurs de Passons Genre. Dans 2 semaines, on fera une émission spécifique sur la justice en matière de violence faite aux femmes. Alors évidemment, les victimes se détournent peu à peu de la justice et en appellent à nous à travers les réseaux sociaux. C'est ce qu'a fait Laura pour Code Source, podcast diffusé par Le Parisien en septembre. Elle nous lit le message qu'elle a posté sur Twitter.
Alors j'ai marqué « à l'aide, tweet à dérouler ». J'ai mis une photo de moi, des marques de strangulation. Donc j'ai mis « rescapé d'une tentative d'assassinat ». Arrêté et placé en détention provisoire depuis avril 2018, mon tortionnaire a fait plusieurs demandes de mise en liberté qui ont toutes été refusées. Mais contre toute attente, il a été libéré le jour de la Saint-Valentin. Je vis dans la terreur, je ne sais pas si je vais mourir demain. Je suis une victime, je ne veux pas rallonger la longue liste des féminicides 2019. La justice sourde me livre en pâture à cet homme, aidez-moi.
Ça a été retweeté.
Ça a été retweeté 13 500 fois.
5 000 j'aime.
Ça a été vu presque 1,4 million de vues.
Et donc, en fait, vous avez fini par obtenir, grâce à ce tweet, ce que vous attendiez, en fait.
Grâce à ce tweet, tous les médias m'ont contacté. Donc, ils ont vu, enfin là, c'était une urgence absolue. Du coup, une semaine après, le mardi 21 mai, il a été convoqué à Nanterre, sous ordre du procureur. Il a été remis en détention provisoire.
Et donc là, aujourd'hui, il est toujours en détention.
Il est toujours en détention.
Caroline Delasse, je vous vois effarée.
Ouais,
je me trompe.
On est en 2019, on est en France, on est un pays qui a les moyens. On est un pays qui a les moyens de protéger les femmes et qui, en fait, ne le fait pas. Et moi, il y a un truc dans ma tête qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on sait comment faire. On sait quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre. On sait quels sont les moyens qu'il faudrait mettre sur la table. Il y a des gens qui ont le pouvoir de décider ça. Ils ne sont pas très nombreux. Ils s'appellent Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Ils auraient le pouvoir vraiment le pouvoir de faire en sorte que ce genre de situation n'arrive quasiment plus jamais en France.
Eux vous disent que tout est fait et que les moyens débloqués sont suffisants, précisons-le. Gilles Lazimi, quand on entend ce témoignage-là, on se dit quoi ? On se dit que contrairement à ce que pensent beaucoup de détracteurs des réseaux sociaux qui disent « attention, on va créer des tribunaux populaires », ça a changé ?
Mais évidemment, ça change
les choses pour les militants, pour les victimes.
Ah ben c'est clair, pour l'information, pour la mise en relation, pour le débat,
pour l'entraide, pour la solidarité, ouais.
Pour la manifestation de demain, c'est absolument incroyable.
Tout s'est fait sur les réseaux sociaux.
Le nombre d'appels sur les réseaux sociaux.
Non, il y a une centaine de comités qui se sont créés dans des lycées et des universités d'Île-de-France et qui ont organisé des actions de terrain.
Ouais.
Et une des réussites de nous toutes, justement, c'est l'alliance entre les réseaux sociaux et le terrain, et la manifestation de demain qui partira, je le rappelle, à 14h de la place de l'Opéra, samedi 23 novembre à Paris.
Plusieurs cortèges partout en France.
Il y a plusieurs cortèges partout en France avec une grande marche nationale à 14h à Opéra à Paris. En fait, c'est l'alliance à la fois des réseaux sociaux avec en effet beaucoup de victimes, mais au-delà beaucoup de citoyennes, de citoyens, d'individus qui se sont engagés dans nous toutes à travers les réseaux sociaux, mais aussi une présence sur le terrain, dans les stations de métro, sur les marchés, dans les centres commerciaux, pour aller au devant des individus, des citoyennes, des citoyens, pour leur dire. Et nos flyers, ils étaient toujours recto, appel à la marche, et verso, que dire à une femme victime, quels sont les numéros de téléphone utiles.
Voilà, les citoyens prennent le relais quand les politiques ont tendance à on va dire quoi, continuer d'attendre. Allez, à l'époque, Twitter n'existait pas. Pendant plus de 15 ans, elle l'a roué de coups. Un beau jour de 1976, elle trouve la force de le quitter. En poche, elle a 36 cents et une carte de station-service. Elle, c'est Tina, lui, c'est Ike. Et lui, on l'a quasi oublié. Alors qu'elle, c'est 200 millions d'albums vendus dans le monde entier. Autant de places de concert et 11 Grammy Awards en 35 ans de carrière. La lionne rugit encore et toujours plus fort. Alors que lui, il est mort.
Well, the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do.
Private Dancer, titre culte de 1984, en très très bonne place au Panthéon de Passongean. Vous êtes sur France Inter, nous sommes ce soir avec Caroline Dehaas du collectif Nous Toutes et de Gilles Lazimi du collectif Féministe contre le viol. Et comme plus on est de fous, plus on est de fous, on va dire, on a élargi le cercle. Et bonsoir Jennifer Padjemi.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, spécialiste des questions de genre, créatrice du podcast Miroir, Miroir, à retrouver sur la plateforme Binge Audio, où vous interrogez les représentations liées au corps et à l'apparence. Jusque-là, j'ai bon? tout bon. Ok, ben on va continuer. Maxime Ruznievski, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes producteur chez Pardi Productions, vous avez cofondé la Fondation des Femmes et comme tous les deux vous êtes du genre poli, vous n'êtes pas venu les mains vides, hein. Vous êtes venu avec votre petite actu de la semaine. Pour ne pas spoiler, je vais résumer. Pour Jennifer, les Gender Reveal Party, c'est non et pour Maxime, les Drag Queens, c'est oui.
Absolument.
Ok, on va pouvoir développer, je vous promets. Mais Maxime Ruznievski, vous avez un point commun avec Gilles Lazimi. Vous êtes tous les deux signataires d'une tribune publiée la semaine dernière dans Libération. C'est un collectif d'hommes qui déclare « Nous marcherons avec les femmes le 23 novembre ». Pourquoi c'était important pour vous de le dire, de l'écrire et de le publier, ça ?
Parce que pendant des millénaires, les hommes ont été totalement passifs. Là, on a l'impression qu'ils sont vaguement solidaires des femmes. Moi, je pense qu'on doit passer à l'étape d'après, c'est-à-dire les hommes doivent devenir alliés. Si on ne devient pas allié, si on ne dit pas, on ne l'écrit pas et si on ne manifeste pas demain, ça veut dire qu'on est passif. Et si on est passif, on cautionne d'une certaine manière les violences faites aux femmes.
Que dire de plus ? On a tout dit.
Qu'il était temps, peut-être ?
Qu'il était temps. Oui, il était temps et il faut que demain, il y ait de plus en plus d'hommes présents à cette manifestation.
Mais précise la tribune, pas devant le cortège, à côté. J'aurais donc une pensée toute particulière pour ceux qui nous écoutent ce soir et tous les vendredis.
France Inter, passons genre.
Elles fascinent, elles intriguent et souvent elles dérangent. Bouches ourlées, tenues pailletées, poitrines en avant, les drag queens dressed like a girl. Voilà ce que signifie drag en réalité. Leur mouvement a pris une belle ampleur aux États-Unis dans les années 90 avant d'arriver en Europe. Et elles sont au cœur d'une très jolie série documentaire diffusée sur arte.tv depuis la rentrée. Oli Fatma et Anne-Flore Trikilo suivent Clément, jeune biologiste un peu timide le jour, qui devient Véronica, bombe d'extravagance la nuit. D'épisode en épisode, c'est surtout l'histoire d'une émancipation.
J'ai eu beaucoup de moqueries. Je pouvais pas dire ouvertement que j'étais gay parce que j'étais dans un lycée catho, parce que j'étais plus gros aussi, donc t'avais déjà le côté gros plus le côté gay. C'est la pire. Les ados sont cons. Hein. En véro, j'en ai moins en général. C'est juste les mecs qui comprennent pas, les espèces de hétéros basiques dans la rue qui viennent te dire vas-y quoi ça. Enfin, franchement, ça m'intéresse même pas, surtout quand tu sais que 95% du temps, ils se font soucier la queue dans les caves.
Caroline de H, on a les yeux qui sortent des orbites. Clément, reine de la nuit, la série vous a beaucoup plu, Maxime Ruznievski. Et justement parce qu'elle explore cette dualité Clément-Véronica qui habite constamment le personnage principal.
Oui, parce que le personnage de Clément, Véronica, c'est une drague. Et comme toute drague, c'est avant tout une artiste. Alors Véronica, vous l'avez dit, Julia, elle est extravagante, elle est délurée, elle a des perruques complètement dingues et des dizaines de tenues vraiment très très étudiées. Et elle a aussi plein d'amis qu'elle coach et qu'elle accompagne sur scène, très respectée dans la profession. Tout le monde l'adore. Il y a par exemple dans le documentaire une scène très émouvante avec un chauffeur Uber qui lui dit « Oh là là, mais j'admire votre liberté, j'admire votre créativité ». Bref, Véronica, comme dit Clément, sans phare et sans robe, c'est moi en plus, avec moins de barrières, moins de complexes, et c'est une sécurité. Alors, il est intéressant ce mot « sécurité » parce que moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce documentaire, c'est ce qu'il y avait derrière le masque. Qu'est-ce qui se passe quand Véronica n'est plus Clément, quand Clément est Clément? Et à ce moment-là, Clément vraiment nous parle de lui sans artifice et nous rappelle qu'être gay en 2019, c'est pas toujours simple, qu'il continue à affronter le regard des autres, mais plus surprenant encore, surtout celui des homosexuels eux-mêmes, parce que ce qui marche le mieux chez les gays, dit Clément, c'est le modèle hétéronormé, c'est grand, musclé, brun et barbu. Et il nous dit, voilà, c'est ça le plus dur, c'est de se sentir jugé par sa propre communauté. Donc voilà, on ressent tout au long de ce documentaire ce décalage entre la bête de scène Véronica et la fragilité de Clément en civil qui mange son kebab frites tout seul très tard le soir quand il y a le baisser de rideau. Et comme beaucoup de trentenaires, Clément il cherche l'amour. Et il dit d'ailleurs, je me fais beaucoup plus draguer quand je suis bien en femme.
Encore, hein.
Mais il conclut le documentaire sur une petite plage à Trouville en disant « Ce personnage de Véronica, il me demande trop de temps et la seule chose qui pourrait me faire arrêter ce personnage, c'est de rencontrer l'homme de ma vie. » Donc là, on sent que Clément quand même reprend son destin en main.
Il y a, en attendant, une femme très très importante dans sa vie, c'est la maman de Clément. Elle vous a touché beaucoup aussi.
Oui, Clément, il habite toujours chez sa maman. Elle est très touchante, cette femme. Elle est très bienveillante. Elle s'inquiète pour son fils. Elle a peur pour lui. Elle a peur des regards, qu'il se fasse agresser. D'ailleurs, il lui dit, c'est assez drôle, il lui dit, t'as pas vu mes talons? Franchement, si quelqu'un me cherche du mal, je vais le recevoir. Et elle rigole, quand par exemple, Clément lui dit qu'il s'entraînait tout petit en s'habillant avec ses robes. elle le regarde, elle l'observe, elle l'habille, elle le maquille. Il y a un tout petit bémol, à un moment elle dit à la caméra, mais être un gay normal, même ça, Clément n'a pas su le faire.
Et
là, Clément
normal,
l'interrompt, il lui dit, mais maman, franchement, ça veut rien dire, normal.
Alors, vous évoquez effectivement cette injonction à la virilité qu'on voit d'épisode en épisode et qui, effectivement, infiltre même la communauté LGBT. Caroline Dehaze, Gilles Azimi, elle fait beaucoup de mal, cette injonction à la virilité et à tout le monde d'ailleurs.
Oui, elle fait du mal à nombreux adolescents, même si heureusement on a un petit peu avancé. Mais moi, quand j'ai commencé à être médecin généraliste, j'ai perdu des jeunes patients qui ne pouvaient pas parler, qui ne pouvaient pas dire, qui ne pouvaient pas être ce qu'ils désiraient être. Et aujourd'hui, c'est quand même heureusement quelque chose qui a avancé. Donc, c'est vraiment une pression qui existe encore.
Et puis partout, parce qu'au-delà de la communauté LGBT, on en souffre tous, et les hommes aussi, pour le coup.
Oui, on est tous dans des modèles, bien sûr, tout à fait.
C'est pas Jennifer Padjemi qui nous dira le contraire. Dans quelques secondes, le temps de vous rappeler que Clément, Reine de la Nuit, est disponible sur arte.tv et que c'est très très bien et que le site Draction aura lieu pour la troisième année consécutive le week-end prochain à Paris entre le quartier du Marais et le Rosa Bonheur. C'est une initiative lancée par le milieu drag pour récolter des fonds en faveur de la lutte contre le sida. Bien. Et maintenant, si je vous dis ricotta bleue ou rose, combat de crocodile et piñata géante avec jet de paillettes colorées, vous me dites, vous me dites c'est bien, vous me dites c'est sobre, vous me dites c'est américain. Et c'est les Gender Reveal Party. Et née il y a une dizaine d'années maintenant, elle consiste à fêter la révélation du genre du bébé à venir. Je pense que Caroline Dehaze va adorer. C'est encore marginal en France, mais c'est doucement en train d'arriver, comme à peu près tout ce qui cartonne aux États-Unis, Sauf que la surenchère de moyens déployés finit par être dangereuse. Ce sont des incendies déclenchés par des concours de tir, des dégâts matériels, et là c'est Gilles Lazimi qui est atterré, des dégâts matériels divers et variés, ou bien cette femme, morte le mois dernier dans l'Iowa, tuée par l'explosion d'une poudre colorée, bleue ou rose évidemment. Et là pour le coup, tout le monde rit autour de cette table, alors qu'on sait que la mort c'est mal, mais bref. Vous, ce qui vous chiffonne, Jennifer, là du fait que cette femme soit tragiquement décédée, c'est quoi? C'est compliqué.
On ne rigole pas de sa mort, bien entendu.
Non.
Mais ce qui me chiffonne, en fait, c'est l'obsession qu'il y a autour de tout ça. Comme vous le disiez, en France, ça commence doucement à arriver. Mais en France, on a quelque chose qui s'appelle les baby showers, qui sont arrivés depuis très très longtemps. Et qui finalement ressemble beaucoup à la Gender Reveal Party, parce que c'est lors de ces fêtes qu'on découvre le sexe du bébé, qui n'est pas encore né, et les personnes qui organisent ça mettent le paquet sur la couleur rose ou bleue selon que c'est un garçon ou une fille. Et ce qui me dérange, c'est qu'il y a vraiment une obsession, et on se dit, mais est-ce que vous pouvez attendre que le bébé naisse avant de décider en fait ce qu'il deviendra? Et c'est vraiment silencier aussi toutes les questions de transidentité, de non-binarité qui peuvent éventuellement arriver un jour dans la vie de cette personne qui est un,
vous voulez dire que ça l'enferme,
un bébé.
Ça l'enferme avant même qu'il soit né.
Ça l'enferme en fait dans un genre. Et le problème, c'est que même les parents, ça les enferme dans une codification dans l'éducation de leur enfant. Et donc, selon que c'est un garçon ou une fille, on va miser sur des codifications très virilistes ou très féminines. Et ça, c'est un vrai problème.
Et depuis quand et pourquoi est-ce qu'on veut, et depuis quand est-ce qu'on peut aussi connaître le sexe des bébés? Est-ce que vous pouvez le rappeler, ça?
Alors, je n'ai pas trouvé de date
avant la naissance,
précise, ouais. Mais je sais que...
Attention, il y a un médecin dans la
salle. Voilà, il y a un médecin, voilà, et on en a parlé juste avant l'émission.
Ouais.
Mais à l'origine, c'était vraiment pour essayer de détecter des problèmes, pour essayer de détecter même des problèmes de postpartum, si je me trompe pas. Mais c'était pas vraiment pour savoir si c'était une fille ou un garçon. Ça allait rien changer en termes de santé. C'était vraiment pour essayer de détecter quelconque problème.
Alors médical. Aujourd'hui, d'après l'INED, 85% des parents veulent connaître le sexe de l'enfant avant la naissance. La question, c'est la motivation profonde. Au fond, c'est laquelle? Gilles Lazimi, vous qui croisez des parents, qu'est-ce qu'ils veulent savoir en fait? Pourquoi est-ce qu'on veut savoir? Mais moi, la première, pour le coup, je ne leur jette pas la pierre, mais pourquoi on se rue là-dessus? Pourquoi on veut savoir?
Je ne sais pas. Mais moi, je me pose la question, pourquoi le demande-t-il? Parce que fille ou garçon, c'est merveilleux, c'est magnifique. Mais je crois qu'il y a quand même une injonction sociétale quand même. On le voit bien dans des pays comme la Chine ou l'Inde, hein, où on tue les petites filles. Hein, on prend la décision parce qu'elles sont filles d'interrompre la grossesse. Donc il y a une injonction sociétale. Et en vous écoutant, je pensais au film La domination masculine. Mmh. Et même où on interroge
Patrick Jean.
Oui, c'est un film remarquable. Oui. Et on interroge même des militants qui explique que nous aussi, on achète tel jeu de garçon et on habille nos filles avec telle robe. Ça veut dire qu'on a, il faut vraiment faire un gros travail sur nous pour pouvoir petit à petit changer les normes et accepter la vie.
Caroline Dez, je suis très curieuse d'entendre votre regard sur ces gender reveal parties et paix à cette dame, mais paix à l'âme de cette dame. Et donc, au-delà de son cas particulier, qu'est-ce que vous secouez la tête ?
Moi, je suis assez effarée de voir que, avant même que l'enfant soit né, et même d'ailleurs après, en fait, avant qu'il construise son propre caractère, son identité, ce qu'il ou elle va être ou voudra être, on va déjà, pour moi, l'empêcher, en fait, lui mettre des bâtons dans les roues. Moi, le sentiment que j'ai, c'est ça. Moi, j'ai deux enfants qui sont en bas âge, qui ont 5 et 8 ans. Quand je les vois revenir de l'école et qu'on leur a fait des remarques sur ça, c'est pas vraiment un truc de fille, ça, c'est pas un truc de garçon, etc., j'ai l'impression qu'on leur met des boulets aux pieds, qu'on les empêche de s'épanouir pleinement, qu'on les incapacite dans leurs possibilités d'émancipation, de découverte du monde, etc. Et à chaque fois, ça me rend triste. Pourquoi est-ce qu'on empêcherait des possibles ? Il faudrait que les petits garçons puissent tout faire et que les petites filles puissent tout faire, indépendamment de leur sexe. Enfin, je veux dire, le fait qu'une petite fille ait des chromosomes XX ou pas, qu'un petit garçon ait des chromosomes XY, je veux dire, en quoi ça a à voir avec le fait qu'ils puissent imaginer, jouer, faire du foot ou de la danse ou j'en sais rien. Enfin, moi, ça m'effraie en fait de voir mes enfants et plein d'autres de leurs copains et de leurs copines déjà limités dans leur capacité d'imaginaire et d'émancipation.
Maxime, Jennifer. Non,
et c'est un vrai problème parce que je donnais comme exemple récemment, j'ai organisé une baby shower à une amie et
pourquoi
j'ai essayé vraiment.
Parce que justement, qu'est-ce qui s'est passé ?
Parce que à l'origine, en fait, une baby shower c'est plus pour offrir des cadeaux et pour décharger financièrement des futurs parents. Donc en soi, l'idée n'est pas vraiment mauvaise, mais le problème c'est que donc j'ai essayé de faire une baby shower vraiment neutre, donc plutôt avec des couleurs très neutres, et il y a une amie de cette amie qu'on avait en commun qui n'arrêtait pas de dire mais on ferait pas un gâteau bleu, on ferait pas il manquerait pas des voitures, il manquerait pas ceci cela parce que c'était un garçon. Et j'arrêtais pas de lui dire mais en fait on peut aussi lui offrir un cadeau qui n'ait rien à voir avec le sexe du bébé et qui soit vraiment pour la décharger financièrement.
Alors, cela dit, moi j'ai l'esprit très mal tourné, j'étais persuadée que la plupart d'entre nous voulaient un garçon. En fait non, d'après l'INED, une femme sur 5 souhaite avoir une fille pour le premier enfant et un homme sur 5 souhaite avoir un garçon, donc au moins de ce côté-là tout va bien. Lui était sans doute en layette bleue et elle en rose mélangée. Ça nous donne un joli duo, Bertrand Belin et Barbara Carlotti. Ça donne surtout du violet, tiens, couleur des féministes, c'est rigolo.
Planche,
cou,
couteau,
bijou,
bouteille,
sou,
bibelot de Lourdes,
marée haute,
arithmétique,
Noël,
Père Noël,
tabac,
obus,
un passant qui pue,
la nuit. Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui, pour qu'il pleuve sur lui. Notre-Dame en feu qui rougeoie dans la nuit la vache.
Le poing d'un mec sourd écrasé sur une bouche.
Carton,
citron,
étron,
pinson,
coton,
dindon,
houlon,
gazon,
avion,
majesté,
vitesse du son. Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui,
pour qu'il pleuve sur lui.
Tout s'efface lentement, tout lentement, tout finit comme un os, blanc comme un os. Le temps est si doux,
grêle,
toi,
bruit,
Barbara,
La foutue manie qu'il a de traîner son passé d'art.
Kadhafi campant dans les jardins de l'Elysée, moi.
Dégustant mon sorbet cassis devant la télé.
Nu.
Clope.
Rideau.
Paradis.
Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui.
S'accueillir des mains.
Le sexe pointu du chien des voisins qui nous faisait machin.
L'arrivée magique des kiwis.
Le mariage inattendu de Romola de Pulski.
Avec Nijinsky.
Le journal local.
Le journal familial.
Le savon doux, tout.
Tes commentaires et l'argent sur la terre qui tourne.
Entre ta fait tout. Tout s'efface lentement. Tout lentement. Donne-moi ta main. Allons descendre. Sentir ce jasmin. En allée marche. Le temps est. Comme un os, blanc comme un os.
Deux fois grand-père.
Et ça parle bébé, ça parle accouchement, et ça parle aussi personne qui décède pendant l'entrée de Jeanne de Rivière Partie. C'était Barbara. C'était pas la mère qui est morte, d'accord? C'est une invitée. Bon. C'était Barbara Carlotti, Bertrand Belin qui chante lentement en duo, nous accompagnant doucement mais sûrement vers la fin de cette émission. Il nous reste moins de 10 minutes à passer ensemble, alors on en profite.
Pas son genre. Julia Foyce.
Bien, et maintenant imaginons un monde où on puisse se réinventer, où les sexes ne seraient pas assignés à résidence, où les genres seraient mouvement, où on en ferait ce qu'on veut. Ce monde-là, c'est le vôtre, vous qui nous écoutez. Et c'est donc aussi celui de nos invités. Quel objet caractériserait votre féminin à vous, rien qu'à vous? Je sais que cette question vous a fait des nœuds cerveaux, Caroline Dehaas, et le résultat, c'est...
Ouais, je dirais un épisode de Grey's Anatomy avec un pot de menthe, de glace menthe chocolat.
Ouais.
Alors,
mais vraiment,
je voulais te dire à la base l'intégrale de Angélique Marquise des Anges, mais j'assume pas du tout de l'avoir à la maison. Parce que je l'ai vraiment à la maison.
Non, vous nous disiez aussi en préparant cette émission, pour vous c'était très compliqué parce que il n'y avait pas forcément, vous disiez, votre première réponse était j'ai pas de féminin.
Oui, alors si je dis ça comme ça, évidemment, les trolls sur les réseaux sociaux vont se déchaîner. Évidemment, on savait qu'elle n'avait pas de
mais
féminin.
Mais pour dire j'ai pas de masculin non plus. Ouais, c'est-à-dire
en fait,
que...
moi je me considère comme une individu. Avec des compétences, des qualités, des défauts, des envies, des convictions. Et j'ai du mal à rattacher le féminin à quelque chose qui m'appartient ou le masculin. Enfin, pour moi, ces concepts sont dépassés, en fait. C'est-à-dire que je suis un être humain entier. Dans moi, il y a plein de choses différentes. Il y a des choses qui viennent de ma famille, il y a des choses qui viennent de mes convictions, il y a des choses qui viennent de mon passé catholique, encore quelques-uns. Il y a plein de choses dedans. Il y a des choses qui viennent des violences que j'ai subies, il y a des choses qui viennent de mon métier, enfin, de ma parentalité. Bon, mais le fait d'être le féminin ou le masculin, c'est des trucs qui me paraissent, mais sauf 20e siècle, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'on est, c'est dépassé.
Là, ce qui est 21e, c'est que c'est chacun le sien et qu'on en fait absolument ce qu'on veut et qu'on y met absolument tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir sa dose de féminin, sa dose de masculin, mettre ça dans le shaker et le mélanger comme on veut.
Même dire une dose de féminin, qu'est-ce que c'est le féminin? Enfin, je veux dire, moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire, en fait. C'est pour ça que ça m'a fait des nœuds au cerveau, cette question. je ne sais pas répondre.
Entre la première question de l'émission et la question de fin, la veille de la manif, je pense qu'on vous achève.
Ouais, Caroline, c'est dur.
Gilles Lazimi, vous, vous êtes venu pas avec votre masculin, mais avec votre féminin.
Ben, je suis venu, oui, avec le féminin aussi, mais c'est un féminin qui parle au masculin aussi. Alors, c'est quoi? C'est une affiche métallique que j'ai dans mon cabinet. Et c'est Wonder Woman. Elle est absolument magnifique. Et je la regarde tous les jours. Elle est très très belle. Et en plus, cette Wonder Woman, quotidiennement, je dis à mes patientes victimes de violence, ça, regardez, c'est vous. Et c'est magique. Vraiment. Et au fil des consultations, on les voit reprendre confiance en elle, on les voit reprendre de l'estime en elle, on les voit reprendre force et décision. c'est des Wonder Woman, et ça, c'est vraiment l'objet auquel je tiens le plus dans mon cabinet de consultation.
Mais est-ce que Wonder Woman, c'est pas aussi, elle disait qu'un symbole, on fait ce qu'on veut, parce que c'est une injonction qui pèse aussi sur nous, Caroline de Haas, la Wonder Woman. Non?
Ouais, mais en même temps, je trouve que l'injonction principale aujourd'hui qui pèse sur les femmes, enfin il y en a des milliers, des centaines de milliards, mais il y en a une qui pèse très fort, c'est le fait de nous faire croire que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous sommes nuls, que voilà. Et ça, moi, je le vis dans le militantisme. Par exemple, à Nous Toutes, c'est un collectif d'une vingtaine de militantes féministes qui sont toutes, mais des femmes tellement incroyables. Mais moi, j'ai envie de pleurer quand je pense à elles tout le temps. C'est des nanas, mais incroyablement fortes, quoi. Je veux dire, elles ont organisé à 20 une manif qui, je pense, va faire parler d'elle partout dans le monde, quoi. Bon, d'ailleurs, oui, d'ailleurs, c'est pas vrai. Je le sais, parce que il y a déjà des médias internationaux qui en parlent partout dans le monde. Eh ben, ces 20 femmes-là, vous les prenez une par une. Je suis quasiment certaine que la totalité disent qu'elles ne sont pas au niveau, qu'elles sont pas à la hauteur. Mmh. Et ça me fait péter un câble. Ce sont des Wonder Woman.
Exactement.
Et ce que la société leur envoie comme message, c'est qu'elles sont pas à la hauteur. La société leur ment. Et moi, je dis à toutes les femmes qui nous écoutent, quand votre cerveau vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes une merde, votre cerveau vous ment. Vous êtes une Wonder Woman.
Et toutes les femmes victimes de violence que je rencontre sont des Wonder Woman. Elles ont vécu des choses épouvantables. Et elles reviennent, elles sont résilientes. Elles et sont on va les aider à sortir des violences. Et ça, il faut qu'on les accompagne et c'est le rôle de chacun.
Ouais. Et elles sont debout et elles sont là. Jennifer, oui, très rapidement.
Si je peux me permettre, alors je suis d'accord avec ce que vous dites, mais c'est important aussi de pouvoir dire aux femmes qu'elles ont le droit de ne pas être toujours au top et qu'elles ne sont pas obligées d'être des Wonder Woman. Parce qu'il y a un peu une injonction aussi à
être une vraie femme. Pour moi, être une Wonder Woman, c'est aussi être capable de dire, bah là, je ne peux pas. Là, je vais m'arrêter. Là, je vais faire une pause. Là, je ne peux pas écouter ton témoignage de violence qui est trop douloureux pour moi. Je te donne un numéro de téléphone et moi, je fais une pause pour prendre soin de moi.
Nous sommes d'accord.
Gilles Azimi, je devrais vous prendre comme rédacteur en chef parce que là, on a visiblement un sujet pour une émission entière. Vous voulez rajouter très rapidement?
Oui, je voudrais rajouter le numéro de Viol Femmes Information.
Bien sûr, mais j'allais vous dire, vous le connaissez, je suis professionnelle ou pas?
95-95.
Je le redis sans couvrir votre voix. 0800-05-95-95. Numéro vert, Viol Femmes Info Service, anonyme et gratuit. En revanche, ça n'est pas un numéro d'urgence, c'est un numéro d'écoute, de conseil, d'orientation. Ce qui est très très bien, mais je veux dire, ça n'est ouvert que du lundi au vendredi de 10h à 19h.
C'est ça.
Pour l'urgence, on fait quel numéro?
3919 pour avoir une information, mais si vraiment il y a une urgence, il va falloir appeler le 17.
Le 17, la police. Caroline de Haas, avant qu'on se quitte, l'essentiel à savoir sur la mobilisation de demain, s'il vous plaît.
Rendez-vous demain à 14h, place de l'Opéra, pour une manif qui va être complètement incroyable et qui va se terminer par un concert place de la Nation avec Clara Luciani et Amel Bent.
Mais trop bien, merci également à nos membres permanents de la clique Pas son genre, Maxime Ruzniewski et Jennifer Padjemi. Jennifer, vous venez de publier une enquête sur les femmes noires qui voyagent. Moi, qu'on puisse dire, c'est qu'on les accueille pas à bras ouverts, hein, c'est ça?
Non.
On ne peut pas dire ça comme ça. Voilà, c'est à lire sur slate.fr. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. Juste après le flash, ce sera du 100% musique, 100% live sur France Inter. Sur France Inter, ben oui, France Inter, évidemment, tout le monde connaît cette radio. C'est Côté Club de Laurent Goumard, il est temps que j'aille me coucher. Allez, quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine et avec joie.